France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Je suis un âne, un vrai, avec quatre pattes et de longues oreilles bourrues qui frémissent au moindre bruit. En disant que je suis un âne vrai, je veux dire que je ne suis pas un de ces hommes à l'esprit obtus que l'on qualifie d'âne. J'ai toujours trouvé qu'il faut que les hommes aient à la fois bien peu de dons d'observation pour avoir fait de notre nom le synonyme de bêtise.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui en direct et en public à l'occasion de la 32e édition des Rendez-vous de l'Histoire de Blois, une sorte de fête annuelle pour cette émission. Il m'a donc semblé que je devais vous donner à entendre l'un de nos invités les plus aimés, un de ceux qui ont fréquenté le plus souvent Concordance des temps. Pour tout vous dire, il dispute à Maurice Sartre depuis 1999, selon une joyeuse compétition, le record dévenu à ce micro. Michel Pastoureau, puisque c'est de lui dont je parle, s'est affirmé depuis plus d'un demi-siècle comme l'historien sans pareil des couleurs et des animaux. L'historien de la façon dont le regard des humains a pu évoluer en face des unes et en face des autres. Ce matin, nous allons parler avec lui d'une bête dont l'image a connu de grandes vicissitudes, entre le mépris et l'affection, entre la considération et l'ironie. Nous allons parler de l'âne. Je ne doute pas que l'âne est présent dans votre mémoire depuis les récits qui ont bercé votre enfance au fil de tant de fables, de contes et de proverbes. Mais si l'on remonte bien plus loin en arrière, ce sera pour constater que dès l'Antiquité et ses mythologies, dès les premiers temps du christianisme, on retrouve l'âne à bien des détours et qu'il a connu des hauts et des bas qui sont violemment contrastés. Au Moyen-Âge, la concurrence du cheval lui a été redoutable quand il est devenu le symbole de la paresse, de la sottise, de la luxure et même de la folie. Alors qu'à partir des temps modernes, la symbolique de la créature aux longues oreilles s'est progressivement renversée avec l'aide essentielle du buffon et du romantisme. À notre époque, le cinéma, la littérature enfantine et même les jeux vidéo ont fait de l'âne un animal qui jouit d'un capital de sympathie tout à fait remarquable. C'est donc ce retournement impressionnant que nous allons tâcher de comprendre.
J'aime l'âne si doux marchant le long des houes. Il prend garde aux abeilles et bouge ses oreilles. Et il porte les pauvres et les sacs remplis d'orge. Il va près des fossés d'un petit pas cassé. Mon ami le croit bête parce qu'il est poète. Il réfléchit toujours. Ses yeux sont en velours. Jeune fille au doux cœur, tu n'as pas sa douceur, car il est devant Dieu l'âne doux du ciel bleu. Et il reste à l'étable résigné, misérable, ayant bien fatigué ses pauvres petits pieds. Il a fait son devoir du matin jusqu'au soir. Qu'as-tu fait, jeune fille? Tu as tiré l'aiguille? Mais l'âne s'est blessé, la mouche l'a piqué. Il a tant travaillé que ça vous fait pitié. Qu'as-tu mangé, petite? T'as mangé des cerises? L'âne n'a pas eu d'orge car le maître est trop pauvre. Il a sucé la corde, puis a dormi dans l'ombre.
Michel Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
J'ai souhaité commencer notre conversation en vous donnant à entendre un poème, je vous en fais l'aveu, que j'avais appris en classe. Un poème de Francis Jammes. C'est un poète désormais un peu oublié, un poète béarnais, mais qui a eu son heure de gloire. André Gide le cite abondamment dans son anthologie de la poésie française. Cela m'a frappé. Vous l'avez appris par cœur, Michel Pastoureau ?
Non, je pense que j'étais peut-être trop jeune pour...
Il est désagréable.
Pardonnez-moi.
Mais vous savez ce que disait Molière ? Certes, vous vous targuez d'un bien faible avantage et vous faites sonner terriblement votre âge. Ce que de plus que vous l'on en pourrait avoir n'est pas d'un si grand cas pour s'en temps prévaloir.
Bon, Bravo.
Non, mais... Alors, je vous rends la parole. J'espère ne pas vous avoir offensé.
Je crois que Francis Jammes était ami avec Gide, mais également avec Claudel, et qu'il y a une dimension chrétienne dans au moins la deuxième partie de son œuvre poétique. Et les animaux sont présents aussi bien au début qu'à la fin de son œuvre, et les végétaux également, dans mes souvenirs, mais cela est lointain.
Alors je voudrais que nous donnions la parole en commençant à un auteur, un savant auquel l'âne doit beaucoup, puisqu'il préside en fait au renversement que votre livre évoque de façon si efficace, je veux dire Buffon.
Oui, bien sûr, c'est à Buffon qu'on doit ce renversement de regard porté sur l'âne, un animal pendant si longtemps méprisé, comparé constamment au cheval, et dans cette comparaison, il est toujours perdant. Et puis, Buffon est un des premiers, sinon le premier, à souligner que l'âne est un animal en lui-même, que ce n'est pas un cheval au rabais, et qu'il est, dit Buffon, le deuxième animal de la création par son utilité quant au service qu'il rend à l'être humain, le cheval étant le premier, et l'âne vient juste après. Et il précise même que si le cheval n'avait pas existé, l'âne serait la vedette des services rendus à l'homme par les animaux domestiques.
On mesure mieux ce que Buffon a apporté à l'image de l'âne quand on revoit l'ensemble des adjectifs que vous avez relevés, Michel Pastoureau, qui se sont longtemps appliqués, en gros jusqu'au XVIIIe siècle, depuis la Rome antique, à l'âne. J'évoque laid, lent, paresseux, indocile, têtu, obtus, borné, stupide, lascif, lubrique, sale, pelé, galeux, infidèle, fourbe et hargneux. Il va falloir travailler pour améliorer ça.
Oui, on va essayer de caser tout cela dans l'émission. Ça fait beaucoup. On en laissera quelques-uns de côté. Mais ça pèse d'un poids très lourd. Alors, ça ne date pas du tout début. L'âne est un animal qui est reconnu comme très utile dans les sociétés les plus anciennes. Et c'est quand le cheval est domestiqué et quand le cheval commence à être comparé à l'âne que cet âne recule. Et ça va être constant jusqu'à des époques tout à fait récentes. L'âne est victime de la domestication du cheval.
À l'origine, d'ailleurs, on ne pense pas à une généalogie. Personne n'évoque une évolution possible d'une espèce à l'autre ou un cousinage.
Non, ça c'est une idée moderne, l'idée d'une généalogie, des animaux qui descendent d'un ancêtre commun. D'ailleurs, c'est constamment remis en cause. Nos savoirs d'aujourd'hui feront sourire nos successeurs dans quelques générations. Il en a toujours été ainsi, il n'y a pas de raison que nos connaissances actuelles soient des espèces de vérités définitives. Tout cela va continuer d'évoluer. Mais dans les sociétés anciennes, on est créationniste, si je puis dire, et on pense que les espèces existent telles qu'elles sont dès l'origine.
Ça ferait plaisir à l'Amérique de M. Trump, c'est-à-dire l'idée que le monde est né en quelques jours.
Oui, le créationnisme n'est pas né avec le christianisme, ni même avec la Bible.
Ni avec Donald Trump.
Si vous voulez. Mais pour ce qui concerne les animaux, dans bien d'autres cultures de la planète non occidentale, il y a les mêmes idées. Les espèces sont telles qu'elles sont depuis les origines, depuis la nuit des temps. Et cette idée de généalogie, sans cesse d'ailleurs réécrite, est une idée assez moderne qui émerge lentement vers la fin du Moyen-Âge et qui s'impose au XVIIIe siècle.
Il y a tout de même, d'origine, on est bien obligé d'observer qu'il existe des baudets et des bardeaux, c'est-à-dire, bardeaux, il y a bien compris, que c'est
oui, que,
une possibilité de quand même de transmission.
Voilà, qu'il y a des animaux conspécifiques et qui peuvent procréer entre eux. Et très tôt, on a observé, en effet, que l'âne et la jument peuvent procréer.
Mais pas avec une grenouille.
Bah avec une grenouille, non, pas encore en tout cas. Mais ça donne des créatures stériles, ça on le sait déjà depuis Aristote et l'Antiquité grecque. On n'a pas beaucoup évolué de ce point de vue-là.
Et puis il y a l'onagre dont il faut dire un mot.
Alors l'onagre est un âne sauvage qui vit dans certaines régions d'Afrique et il est probable que la domestication de l'âne pour la première fois, c'est effectué quelque part aux confins de la Somalie et de la Nubie, dans ces zones africaines où vivent des populations nomades ou semi-nomades. Ça doit se passer vers le 4e millénaire avant notre ère, et dans l'état actuel de nos connaissances, on considère que c'est à partir de ces régions-là que l'âne domestique ou semi-domestique s'est diffusé vers le nord et vers l'est et l'ouest, d'abord au Proche-Orient, au Moyen-Orient, puis vers le Maghreb, l'Europe occidentale. Mais il a un concurrent du côté de l'Asie centrale. Il existe aussi des ânes sauvages qui portent un autre nom, les émiones, qui ont peut-être été domestiqués à peu près vers la même époque ou un peu plus récemment. Et les deux ont dû se rencontrer, l'émione domestique et l'onagre domestiqué, quelque part vers les plateaux iraniens ou le Proche ou le Moyen-Orient, à des dates que nous ne connaissons pas.
Et c'est Christophe Colomb, avec les siens, qui transporte l'âne dans les Amériques ?
Voilà, oui, l'âne n'est pas indigène ni dans l'Amérique du Nord, ni dans celle du Sud, et ce sont les Européens qui l'ont importé progressivement, en Amérique centrale, puis dans le nord de l'Amérique du Sud, plus tard en Amérique du Nord, au XVIIIe siècle, où l'âne a fait souche assez abondamment au sud, un peu moins au nord. Donc c'est un animal d'importation.
Très vite, on le trouve présent dans les mythes, dans les fables de toutes sortes. Et je vais, à titre d'exemple, évoquer l'âne d'or d'Apulée, qui est un roman qui mérite attention.
Oui, c'est même le seul roman complet de l'Antiquité qui nous soit parvenu. Roman, d'ailleurs, est un mot un peu inexact, c'est plutôt un conte merveilleux ou un ensemble de contes merveilleux. C'est un texte touffu, écrit dans un latin assez précieux, parfois difficile à traduire, voire à comprendre, par un auteur dont nous ne savons pas grand-chose.
Deuxième siècle après Jésus-Christ.
Voilà, c'est l'époque de la grande paix romaine, et plus précisément le règne de l'empereur Antonin le Pieux, qui est peut-être la seule époque dans l'histoire du monde où l'humanité entière a été en paix pendant environ un quart de siècle. Donc Apulée appartient à cette génération-là, et il est berbère d'origine, une famille aisée qui lui permet de voyager, de faire des études d'abord à Carthage, puis à Athènes, de venir à Rome, de repartir. Il a écrit pas mal de textes qui relèvent de la rhétorique. Et puis ce roman, entre guillemets, qui porte comme type primitif Métamorphose.
À cause d'Ovide, évidemment.
Alors à cause d'Ovide, oui, les Métamorphoses d'Ovide, c'est un des grands textes fondateurs de la culture occidentale. Il faut absolument lire les Métamorphoses d'Ovide.
Je fais chorus avec vous, vraiment, c'est un livre incroyable. On y entre et on s'y promène avec un bonheur infini.
Il y a tout dans les Métamorphoses d'Ovide. Il faudrait le connaître par cœur. C'est un texte difficile, hein, et ceux d'entre vous qui ont fait des versions latines savent que traduire Ovide, ça n'est pas simple.
Je n'avais pas prévu cette parenthèse, mais je ne m'en plains pas. Alors après, quittons Ovide, revenons à Apulée. Rappelez-nous, Michel Pastoureau, quelle est l'intrigue curieuse de l'âne d'or ?
Elle est tourmentée, l'intrigue, mais en gros, c'est un jeune homme de bonne famille qui s'appelle Lucius, qui a une fiancée, pour prendre un terme d'aujourd'hui, qui est au service d'une magicienne. Lucius a le désir de parcourir le monde et demande à être transformé en oiseau.
Vous êtes imprudent.
Survoler les différentes parties du monde, mais sa jeune maîtresse s'en mêle dans les filtres et il est transformé en âne. Et c'est en âne qu'il va parcourir le monde. Il va lui arriver toutes sortes d'aventures. Ça lui permet d'observer non seulement la méchanceté, mais les turpitudes des êtres humains. C'est l'occasion pour l'auteur d'ailleurs de les dénoncer, bien sûr. Parfois d'ailleurs, Lucius, devenu âne, participe à ces turpitudes, notamment quand elles sont d'ordre sexuel. D'autres fois, il en est victime. Bref, toutes sortes d'aventures. Et puis, pour qu'il retrouve sa forme humaine, il faut qu'il mange des roses.
Alors vous allez voir ça dans l'extrait que je vais vous proposer.
Très bien. On sent le contraste entre l'âne et la rose, qu'on va retrouver tout au long de l'histoire littéraire de l'âne.
Avec toutes les excroissances, les horreurs, les déformations de l'âne. Écoutez donc cet extrait de L'âne d'or d'Apulée, lu par Robert Tanton dans L'heure de culture française, qui avait été diffusé le 21 avril 1959.
Il n'est femme au monde que je préfère à ma Fotis. Mais que me faudra-t-il dire ou faire pour me dépouiller de ce plumage et redevenir le Lucius que j'étais ? Sur ce point-là, dit-elle, tu peux être sans inquiétude. Ma maîtresse m'a montré par quels moyens l'on peut, après chacune de ces métamorphoses, rentrer en possession de sa figure humaine. Tout en renouvelant ses assurances, elle se glisse dans la chambre et tire une boîte du coffret. Je saisis la boîte, puis ôtant à la hâte tous mes vêtements, j'y plonge avidement les mains, puis une bonne dose d'onguent en frotte toutes les parties de mon corps. Et déjà je faisais l'oiseau, m'essayant à balancer alternativement mes bras. De duvet, cependant, et de plumes, pas trace. Mais mes poils, oui, s'épaississent en crin. Ma peau tendre durcit comme un cuir. À l'extrémité de mes mains, le compte se perd de mes doigts, tous ramassés en un unique sabot, et du bas de mon échine sort une longue queue. Une bouche qui s'allonge, des narines béantes, des lèvres pendantes. Mes oreilles, à leur tour, grandissent démesurément et se hérissent de poils. Dépourvu de tout moyen de salut, je considérais mon corps sous tous ses aspects, et n'apercevant en fait d'oiseau qu'un âne, je maudissais la conduite de Fotis. Mais n'ayant plus de l'homme ni la voix ni le geste, j'étais réduit, ne pouvant faire plus, à la regarder de côté, la lippe tombante, les yeux humides, et à lui adresser des reproches muets. Quant à Fotis, dès qu'elle me vit dans cet état, elle tourna ses mains contre elle-même et s'en frappa le visage.
Il faut, chez Pastoureau, que nous nous attardions un instant sur l'image que cette antiquité a eue de l'âne. En fait, beaucoup moins négative que ce ne sera le cas au Moyen-Âge, si on se reporte au mythe, justement à la mythologie que vous évoquiez, du côté de Dionysos, d'Apollon, et même, ne faisons pas l'économie de Priap, si vous le voulez bien.
Voulez-vous qu'on parle de Priap ?
À vous de choisir. Laissez-vous aller à votre pente.
Oui. L'âne est l'attribut d'un certain nombre de divinités dans la mythologie grecque, notamment Dionysos, qui n'est pas que le dieu du vin ou de l'ivresse, c'est un dieu complexe, c'est le dieu de tous les excès. Et un de ses fils, c'est Priap, et Priap, c'est un dieu sexuel. Et alors, Priap est souvent furieux que l'âne ait un sexe encore plus grand que le sien. Et il y a plusieurs histoires qui mettent en scène et Priap et l'âne, notamment l'une d'entre elles, Priap, qui est extrêmement libidineux, cherche une nuit à s'approcher de la déesse Héra qui dort pour s'unir à elle. Il est parvenu presque à ses fins quand un âne se met à braire, l'âne de Silène ou l'âne de Dionysos, et la chose ne peut pas aboutir. Priap est furieux et, à partir de cette date, demande qu'on lui sacrifie un très grand nombre d'ânes dans son culte.
Nous avons tous en mémoire les oreilles du roi Midas, les oreilles d'âne du roi Midas. Un mot sur Midas, tout de même.
Oui, c'est quand même un personnage considérable des légendes mythologiques grecques. Il y a l'histoire de Midas qui demande les richesses et qui on lui accorde que tout ce qu'il touchera sera changé en or. Et naturellement, il est paralysé par l'or et supplie que cette particularité disparaisse. Mais il est encore plus connu pour son histoire d'oreille. Midas a été un des jurés dans un concours de musique qui opposait le dieu Apollon avec sa lyre et un satyre, Marsyas, avec sa flûte. Et alors il y a une compétition, un jury, tous les membres du jury accordent la victoire au dieu Apollon, sauf Midas, qui pense que la flûte était plus belle que la lyre. Le dieu Apollon est furieux, considère que Midas a un goût déplorable et, en signe de mauvais goût, le transforme en âne, ou plutôt le dote d'oreille d'âne, qu'il va garder dans l'iconographie constamment, bien qu'il cherche avec des couvre-cherches toutes sortes de cacher ses oreilles d'âne, mais rien n'y fait. D'autant qu'il avait menacé de mort son coiffeur s'il révélait le secret. Alors, le coiffeur, comme souvent dans la mythologie grecque, a un moyen de s'en débarrasser, c'est de l'enfouir sous terre. Le secret est enfoui sous terre, mais là poussent des roseaux, donc le secret revient dans les roseaux, et quand il y a du vent, se répand la légende selon laquelle Midas a des oreilles d'âne. On voit là l'origine de notre futur baudet d'âne, qui n'existe pas dans la Grèce antique, mais que l'on voit déjà apparaître dans la Rome antique.
Beaucoup d'aspects néanmoins négatifs. On va jouer un instant, si vous permettez, à un petit jeu. Je vais vous dire un certain nombre des formules, des proverbes de l'époque latine. Et vous me direz ce que ça veut dire. Vous verrez que c'est pas très gentil pour l'âne. Tondre un âne.
Tondre un âne, c'est faire quelque chose de totalement inutile. On différait les oies au Moyen-Âge.
Passer du cheval à l'âne.
Alors c'est tomber dans la misère, de la richesse à la pauvreté.
Comme l'âne devant la jument.
Ça, c'est sexuel. C'est-à-dire que la légende veut que les ânes, pas seulement la légende d'ailleurs, peut-être le comportement véritable de l'animal, l'âne est plus excité sexuellement par la jument que par l'ânesse.
D'un âne ne sortira jamais un cheval.
Oui, c'est-à-dire que d'une créature misérable ne sortira jamais une créature remarquable.
S'attarder à l'ombre de l'âne.
Ça, c'est accorder des choses à accorder de l'importance à des choses qui n'en ont pas, quelque chose comme ça.
Se trouver comme un âne parmi les abeilles.
Ça, c'est se mettre dans une situation particulièrement difficile. On dit la même chose de l'ours, d'ailleurs, dans la Rome antique.
Il est vain de vouloir faire boire un âne qui n'a pas soif.
Oui, ça, c'est faire à quelqu'un qui est obstiné quelque chose contre son gré. C'est souvent un exercice impossible.
Et puis il y a cette fameuse expression que nous retrouvons dans les pages roses du Petit Larousse, « Asinus asinum fricat », l'âne frotte l'âne.
Oui, c'est l'un des proverbes les plus célèbres de la Rome antique.
Venons-en maintenant alors au christianisme, l'Ancien Testament, puis au Nouveau Testament. Quelle figure y trouve l'âne ?
Oui, alors, dans l'Ancien Testament, l'âne est relativement abondamment cité. Il y a même l'idée que qui possède des troupeaux d'ânes est un homme riche. On en voit apparaître dans les différents livres bibliques. Mais il y a un épisode tout à fait remarquable qui met en scène une ânesse particulièrement clairvoyante, l'ânesse de Balaam.
Ah, c'est au retour de...
Au livre des Nombres, oui, le roi des Moabites a envoyé le prophète Balaam maudire les Hébreux qui, au sortir du désert, s'attardent dans son royaume. Il a peur de ce peuple nomade. Et le prophète ne veut pas du tout remplir cette mission, mais finalement il y est obligé. Il monte sur son ânesse et en chemin, celle-ci s'arrête brusquement et s'incline. Balaam ne sait absolument pas pourquoi. Il l'insulte par trois fois, il la bat, et l'ânesse se met à parler. « Pourquoi me bats-tu? Ne vois-tu pas ce qu'il y a devant nous ?» Et en effet, l'ange du Seigneur est là, qui se dresse sur le chemin. Ça signifie que l'animal humble, modeste, passé pour ignorant, a vu ce que le prophète, lui, ne voyait pas, alors que sa mission était de voir et de deviner. Le pauvre animal était plus clairvoyant que le plus voyant des humains, le prophète. Donc c'est une métaphore très très célèbre dès l'Antiquité et qui est reprise tout au long du Moyen-Âge. L'ânesse de Balaam est très très souvent représentée dans l'iconographie.
Et puis, naturellement, on pense toujours au couple du bœuf et de l'âne dans la crèche. Je crois qu'il faut que nous nous y attardions un instant, car c'est une histoire qui a connu bien des avatars, en réalité, et qui se fonde, nous dites-vous, sur des textes qui ne sont pas qui sont tardifs. Avant vous commentiez, je vais vous donner à entendre la manière dont Jules Supervielle, en 1930, évoquait le conte, dans un conte qui s'appelait « Le bœuf et l'âne », évoquait ce moment-là. C'est une mise en scène de la compagnie Renault-Barrault avec Madeleine Renault et Jean-Louis Barrault le 26 décembre 1948. Le bœuf, l'âne, dans la crèche.
Le bœuf pense à ses cornes. Il rumine. Souvent les bœufs font semblant de ruminer alors qu'au fond de leur âme, ils chantent. Il est inquiet. S'il allait donner par mégarde un coup de corne à l'enfant. Tu ne dois pas trop t'approcher du petit, dit l'âne.
Le bœuf approuve par un silence d'une qualité exceptionnelle. Il sait donner à son mutisme un rythme, des nuances, une ponctuation.
Mais moi, je vais lui offrir mes deux oreilles. Tu comprends, ça remue, ça va dans tous les sens, ça n'a pas d'os, c'est doux au toucher. Ça fait peur et ça rassure tout à la fois. C'est juste ce qu'il faut pour amuser un enfant. Et c'est instructif à son âge.
Oh oui, je comprends, j'ai jamais dit le contraire, je ne suis pas stupide. Mais ne va pas lui mettre à braire dans la figure, tu le tuerais.
Oh, paysan, dit l'âne.
L'âne se tient à gauche de la crèche, le bœuf à droite. Place qu'ils occupaient au moment de la nativité. Et que le bœuf, ami d'un certain protocole, affectionne particulièrement. Immobiles et déférents, ils restent là durant des heures, comme s'ils posaient pour quelque peintre invisible.
Et puis on retrouve Michel Pastoureau, on retrouve l'âne dans les évangiles avec l'entrée de Jésus dans Jérusalem à dos d'âne.
Oui, l'âne entretient des rapports avec Jésus assez nombreux. D'abord donc dans la scène de la nativité, les évangiles canoniques ne parlent pas de l'année du bœuf. Ils disent simplement que, celui de Luc dit que Marie a accouché dans une étable. Un argument d'ailleurs pour les théologiens pour souligner que le Christ est venu sur terre pour sauver aussi les animaux. La preuve, il est né dans une étable. Et alors, dans l'iconographie, pour montrer l'étable, il faut mettre en scène des animaux, pour préciser le lieu. Donc l'âne et le bœuf deviennent attributs du lieu, et ça donne l'idée aux évangiles apocryphes, un peu plus tard, au 4e, 5e siècle de notre ère, de raconter que l'âne et le bœuf, attributs de l'étable, en quelque sorte, ont assisté à la nativité, avec débat tout au long du Moyen-Âge pour savoir qui était le plus près de l'enfant Jésus. Est-ce que c'est l'âne ou est-ce que c'est le bœuf? Peut faire même. La scène est tellement souvent représentée qu'on peut faire des statistiques. En général, c'est le bœuf qui gagne. Il est plus près de l'enfant Jésus que l'âne. L'autre épisode, bien, c'est quelque temps après, quand Marie et Joseph doivent fuir en Égypte. L'âne porte Marie et le nouveau-né sur son dos, puisque le roi Hérode avait demandé qu'on mettent à mort tous les jeunes enfants qui étaient nés à Bethléem et autour de Bethléem. Des mages avaient prédit qu'un roi des Juifs venait de naître et allait régner. Et enfin, l'âne est lié à l'histoire de la Passion, bien sûr, lorsque le Christ va entrer dans Jérusalem, le jour des rameaux, monté sur une ânesse à robe blanche, suivi de son ânon, la foule agitant des palmes et étendant au sol des étoffes ou des vêtements. Donc l'âne, c'est l'animal qui a eu le bonheur d'assister à la nativité et de porter le Christ sur son dos.
Il est d'ailleurs curieux d'observer que pendant longtemps, on a sculpté des petits ânes en bois pour montrer que... Et que ça, naturellement, ils ont été condamnés avec vigueur par la pudibonde... Enfin, comment dire les choses obligeamment pour les protestants, par la rigueur de Calvin et des autres.
L'idolâtrie, même, dit Zwingli à Zurich. Donc cet âne des rameaux qu'on promène en possession ce jour-là est un âne en bois monté sur roulette. Beaucoup d'églises d'Occident en possèdent à la fin du Moyen-Âge. Ça ne sert qu'une fois l'an. Mais pour les théologiens réformés, c'est vraiment de l'idolâtrie. Et à Zurich, c'est passionnant, vers 1524, Zwingli fait jeter l'âne des rameaux de Zurich dans le lac avec toute une liturgie qui est encore plus idolâtrie que la promenade de l'âne le jour des rameaux. Et la contre-réforme catholique va avoir un peu honte de ces ânes des rameaux, ce qui fait qu'on en a beaucoup perdu et ce sont aujourd'hui des pièces de musée relativement rares.
Si vous en avez, gardez-les. Il faut en venir alors au Moyen-Âge, avec cette période qui est vraiment pour votre âne, pour notre âne, une période très sombre, comme nous l'avons déjà dit. Et c'est clair dans les bestiaires, dans les encyclopédies, et au fond également dans les chansons, dans les chansons de jazz, dans les contes de Renard à Fauvel.
Oui, la symbolique animale au Moyen-Âge est totalement ambivalente, comme celle des couleurs, comme celle des végétaux. Chaque animal a ses bons et ses mauvais aspects. mais ce peut être déséquilibré. Et pour l'âne, c'est très déséquilibré. Les mauvais aspects l'emportent très largement sur les bons aspects. Toute la catégorie d'adjectifs que vous avez énumérés se retrouve dans les bestiaires et dans les encyclopédies des 12e, 13e, 14e siècles. L'âne est lent, l'âne est stupide, l'âne est obtus, l'âne est sale, l'âne est laid, l'âne est lent, l'âne est lubrique, l'âne est hypocrite, l'âne est traître, etc., etc. Le catalogue est vraiment très très long sur ce pauvre âne.
Et, le roman de Fauvel est tout à fait topique à cet égard.
Voilà, le roman de Fauvel. Dans le roman de Renard, qui le précède quelques générations, l'âne joue un rôle relativement discret, il s'appelle Baudouin, un rôle assez fortement sexuel. C'est un des courtisans du roi noble.
Aucun rapport avec le roi des Belges, j'espère qu'on ne nous écoute pas en Belgique.
L'âne est l'archiprêtre parmi les courtisans à la cour du roi noble.
Alors Baudouin.
Il s'appelle Baudouin, et Baudouin, c'est un nom commun en ancien français qui signifie le sexe de l'homme.
Montrer son Baudouin, c'est pas très bien.
C'est pas montrer sa figure, non, c'est montrer autre chose. Et baudouiner, qui est un verbe encore bien attesté au XVIIIe siècle, ça veut dire se livrer à la fornication, en quelque sorte, spécialement pour les animaux. Donc l'âne s'appelle Baudouin dans le roman de Renard, mais quelques temps plus tard, à la fin du règne de Philippe le Bel, un autre roman, écrit probablement par un clerc de la chancellerie, Fauvel, le roman de Fauvel, va plus loin encore et met en scène, non pas un goupil, là, mais un âne, qui est particulièrement négatif. Il a tous les vices que je viens d'énumérer, mais en plus, il est vaniteux, ambitieux, il veut épouser la déesse Fortune, devenir empereur du monde. Et alors, son nom est un acrostiche, Fauvel, c'est fait de lettres qui sont les initiales des mots flatterie, avarice, vanité,
vilénie,
envie et lâcheté.
Non, je t'ai plus.
Ça fait beaucoup, oui. Ça fait beaucoup.
Il va falloir que nous le sauvions cette âne et que nous voyons comment il a été progressivement réhabilité.
Et ça, quelques érudits ont pensé que cet âne était peut-être un cheval. Certains passages du roman hésitent entre les deux animaux. Ça a contribué à créer le nom commun Fauvellerie, se livrer à la fauvellerie, c'est-à-dire à des actes hypocrites, trompeurs, malhonnêtes, de même que Renard avait créé Renardie, qui a à peu près le même sens, fauvellerie étant peut-être un superlatif de Renardie.
Il est notable qu'à la fin du Moyen-Âge, caractère parodique et satirique de l'âne, qui a déjà bien été mis en valeur dans les romans que vous évoquez, s'installe au premier plan des activités du regard des hommes à cette époque. En particulier, il faut que vous nous disiez un mot de ce qui est déguisement, transgression, la messe de l'âne en particulier, la messe de l'âne.
Oui, c'est un dossier épais, mal étudié, il faut bien le reconnaître, compliqué, en plusieurs étapes, cette messe de l'âne qui émerge dans le courant du XIIe siècle et qui atteint son apogée au XVe. C'est au fond une dérive des charivaris en milieu clérical liée à la messe des saints innocents. Le 26 décembre, on fête les saints innocents, mais innocent est un mot ambigu du point de vue théologique. Ici, il s'agit des enfants nouveau-nés qui n'ont absolument commis aucune faute, qui sont innocents. Mais de innocent, on va passer à innocent, simple d'esprit, la messe des sceaux. Et puis des sceaux, on va passer à l'animal qui emblématise la sottise, l'âne. Et progressivement, on va passer d'une fête chrétienne tout à fait normale, avec sa propre liturgie, vers une fête qui consiste à se livrer à des rituels plus ou moins transgressifs, notamment de la part du bas clergé, et à des rites d'inversion. Le bas clergé prend la place du haut clergé.
C'est le principe du carnaval.
Voilà, c'est un peu carnaval. On déguise des animaux en prêtre ou en évêque, on introduit un âne dans l'église, on fait une procession pour suivre cet âne qui va jusque dans le cœur. Ça donne lieu à toutes sortes de transgressions. L'Église laisse faire d'abord, comme toujours, au mieux laisser faire et puis contrôlé dans un deuxième temps, mais les excès sont tels que ça donne lieu à des excommunications, à des décrets de toutes sortes, et cette messe de l'âne semble atteindre son apogée au XVe siècle, avec des déplacements de date. Ça se situe toujours entre le 26 décembre et le 6 janvier, dans cette période particulièrement intense en rituel, en croyance, en superstition, associée à des rituels chrétiens.
Eh bien, je vous propose la lecture d'un fragment de l'office de la fête de l'âne qui est attribué au prélat Pierre de Corbeil. Là, on est au début du XIIIe siècle, avant l'évolution que vous venez de dire. C'est un extrait diffusé dans Les Chemins de la connaissance de Jean Dève sur France Culture le 6 septembre 1988. Conduit conductus de l'âne lorsqu'il est amené vêpres du 31 décembre, veille de la fête de l'âne.
Fragment de l'office de l'âne, attribué à Pierre de Corbeil, évêque de Sens, début XIIIe siècle. Conduit, conductus de l'âne, quand il est amené, vêpres du 31 décembre, veille de la fête de l'âne. Des pays d'Orient est venu l'âne, bel et bien fort, si bon à porter les fardeaux. Allez, monsieur l'âne, le nôtre c'est sur les collines de Sichem qu'il a été élevé, sous la férule de Rubin. Il a traversé le Jourdain et bondi vers Bethléem. Allez, monsieur l'âne, Au seau, il bat les jeunes mulets, les daims et les chevreuils, et il est plus rapide que les chameaux de Madian. Conduit de l'âne après la messe, le 1er janvier. Des pays d'Orient est venu l'âne bel et bien fort, si bon à porter les fardeaux. L'or de l'Arabie, l'encens et la myrrhe de Saba, c'est grâce à la vertu assinaire qu'ils furent apportés à l'église. Monsieur l'âne, aussi bien que des pies de blé, il se nourrit d'orge et de chardon. Sur l'air à blé, c'est lui qui sépare de la paille le froment. Ohé, l'âne, il faut dire amen quand tu es repu d'herbe fraîche, et répéter deux fois amen, amen pour refuser le vieux foin.
On est là vraiment, Michel Pastoureau, à la rencontre entre des permanences d'un certain paganisme et les efforts du christianisme pour s'emparer de cette tradition.
Oui, tout à fait, avec, comme je le disais, des dates qui varient beaucoup. Là, on nous dit qu'on est le 1er janvier, quelquefois c'est le 2 janvier, la fête de l'âne, on peut reculer jusqu'au 6 janvier. Il se passe dans cette période de l'année des choses où le paganisme affleure constamment sous les fêtes chrétiennes.
Alors il faut évoquer aussi les déguisements des particulièrement détestables que certains animaux permettent.
Oui, c'est un dossier auquel je me suis attelé de bonne heure. Les interdictions de se déguiser en animal tout au long du Moyen-Âge, interdictions émanant de prélats et d'autorités ecclésiastiques. Et ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a des animaux cités en exemple, et ce sont toujours les mêmes. Le taureau, le sanglier, l'ours, le cerf, le bouc et l'âne. Pourquoi cela ? Longtemps, n'ai pas compris. Il y a des domestiques et des sauvages, ils n'ont pas de parenté beaucoup entre eux. Puis j'ai fini par réaliser que ce sont tous des animaux qui ont des protubérances. Ils ont des éléments qui sortent du corps, du point de vue formel, des cornes, des queues, des oreilles, des sexes, des poils. Et je crois que dans la sensibilité médiévale, c'est ça, au fond, qui définit le mieux l'animalité. L'être humain, lui, a un corps relativement lisse, et l'animal, particulièrement animal, a un corps avec des excroissances, des protubérances. Et l'âne en est une des vedettes, à la fois à cause de ses grandes oreilles, de sa longue queue et de son sexe démesuré.
Alors venons-en, Michel Pastoureau, venons-en à l'époque moderne, préparant ce retournement qui vous réjouit, au fond, où l'âne reprend une belle figure. Il a fallu quelque temps, en particulier, si on considère par exemple Don Quichotte, l'âne de Sancho Panza, ou bien l'âne dans le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, ou Prud'âne. Évoquez, si vous voulez bien, ces trois œuvres fameuses.
Cervantes, met en scène l'âne de Sancho qui s'oppose à Rocinante de Don Quichotte. Le cheval de Don Quichotte a un nom, Rocinante, mais l'âne de Sancho n'en a pas. Il est l'âne tout au long du roman, ce qui en soi équivaut à un nom. Et alors, il est bien sûr plein de défauts. Il est paresseux, il est lubrique, il est un peu stupide, mais il est quand même sympathique, comme Sancho d'ailleurs est sympathique, peut-être même plus que Don Quichotte, et l'âne plus sympathique que Rocinante.
Vous aimez aussi bien évoquer le sens d'une nuit d'été de Shakespeare.
Oui, alors c'est un gros morceau, c'est une des pièces les plus jouées dans toute l'histoire du théâtre, c'est pièce qui, de mon point de vue, est absolument admirable.
Hein. 1595.
Le théâtre sur le théâtre sur le théâtre, il y a une mise en abîme qui est absolument remarquable. Et un épisode fameux, c'est quand Oberon se fâche avec son épouse Titania et demande à son fidèle Puck, hein, nous sommes dans le monde des fées et des elfes, de jeter un sort à la reine Titania et de faire en sorte de l'endormir, et quand elle se réveillera, elle tombe amoureuse du premier être vivant qu'elle verra. C'est ce qui se passe, et le premier être vivant qu'elle voit, c'est le tisserand Bottom, un personnage tout à fait ridicule, peut-être la vedette de la pièce en fait, même s'il n'a pas le rôle principal, un personnage ridicule, un tisserand qui veut monter avec quelques artisans d'Athènes la pièce autour de l'histoire de Tiram et Thisbé, et qu'entre-temps Puck a doté d'une tête d'âne. Et alors Titania tombe amoureuse, reine des fées, tombe amoureuse d'un personnage doté d'une tête d'âne, un personnage qui est vaniteux, ridicule, bouffon, attendrissant aussi. Tout ça est difficile à raconter, mais c'est absolument admirable. Je dois dire qu'à titre personnel, c'est ma pièce préférée de toute l'histoire du théâtre, Le songe d'une nuit d'été, et je ne suis pas le seul.
Du coup, nous ne détaillerons pas l'intrigue de Peau d'âne de Charles Perrault, faute de temps. Chacun pourra se reporter soit à ses ouvrages, soit à ses mémoires, à ses souvenirs, à sa mémoire. En revanche, je voudrais marquer que le XVIIe siècle voit lentement l'évolution se commencer, mais encore Furetière, dans son dictionnaire, écrit ceci à propos de l'âne: baudet, animal à quatre pieds et à longues oreilles, paresseux, laborieux et stupide. C'est une bête de somme dont se servent souvent les pauvres gens pour porter des choux, du fumier, du plâtre, etc. Cet animal est mélancolique. Et puis, il est batté. Donc, l'expression âne batté, on lui met un bas sur le dos.
Le discours de Furetière, le dictionnaire de Furetière, c'est une source extrêmement importante pour l'historien. Hein. On a là un résumé sous forme de notices, de fiches presque, sur les animaux, sur les végétaux, sur les objets tels qu'on les voyait à la fin du XVIIe siècle. Alors, le portrait de l'âne est un portrait négatif. Hein. Vous l'avez tout à fait senti. Eh bien, un siècle plus tard, ce ne sera plus le même. Donc, c'est dans le courant du XVIIIe siècle que le portrait de l'âne va se revaloriser grâce à quelques auteurs, et je crois qu'au premier rang desquels il faut citer, bien sûr, Buffon.
Alors, nous l'avons déjà célébré en commençant, mais il faut y revenir, vous avez raison, je le cite, donnons la parole à Buffon. L'âne est donc un âne, vous l'avez rappelé tout à l'heure.
Une phrase magnifique.
Une phrase magnifique et qui est difficilement contestable en plus. Il n'est point un cheval, non mais ce qui est plus important c'est la suite, il n'est point un cheval dégénéré, un cheval à queue nue, il n'est ni étranger, ni intrus, ni bâtard. Il a, comme tous les autres animaux, sa famille, son espèce et son rang. Son sang est pur, et quoique sa noblesse soit moins illustre, elle est tout aussi bonne. Il a vraiment eu la chance d'avoir Buffon qui parlait de lui, cette âne. Tout aussi ancienne que celle du cheval. Pourquoi donc tant de mépris, continue Buffon, pour cet animal si bon, si patient, si sobre, si utile? Les hommes mépriseraient-ils donc les animaux qui les servent trop bien et à trop peu de frais? Buffon, Histoire naturelle, tome 4, 1753.
Voilà, oui, Buffon est le premier véritable avocat de l'âne, et c'est un auteur que j'aime passionnément. Il faut lire Buffon. D'abord, la prose de Buffon est absolument magnifique. Je crois que jamais la langue française en prose n'a jamais été aussi bien écrite que sous la plume de Buffon, spécialement dans l'histoire naturelle. C'est vraiment la grande plume de la langue française.
Ovide et Buffon, en somme, sont les deux grands personnages tutélaires de cette émission, si j'ai bien compris. Ovide et Buffon.
Oui, enfin, me concernant, oui, Ovide et Buffon, ce sont deux auteurs fondateurs de ce que j'appelle la culture occidentale. Oui.
Alors, Buffon.
Buffon, donc, revalorise l'âne, invite à ne pas le comparer au cheval, souligne que ce n'est pas un cheval au rabais, ce n'est pas un cheval dégénéré, qu'il rend de multiples services à l'être humain. Et c'est un discours nouveau parce que quand on prend l'entreprise concurrente de l'histoire naturelle, la grande encyclopédie de Diderot et d'Alembert, où la notice sur l'âne, qui est longue, a été écrite par le collaborateur de Buffon, Daubenton, que j'aime beaucoup aussi.
Il a sa rue à côté du muséum.
Daubenton dresse un portrait de l'âne qui ressemble à la petite notice de Furetière. Il ne le revalorise pas du tout. Et Buffon, lui, a le courage de faire de l'âne un âne. J'aime beaucoup cette phrase, moi. L'âne est un âne.
Et évidemment, ça contraste avec l'époque du XVIIe siècle. Nous ne vont pas évoquer La Fontaine, c'est de la chose très connue.
Oui,
au fond, il s'inspire d'Ésope, ce personnage un peu mythique du Ve siècle avant Jésus-Christ. Et il fait de l'âne quelque chose d'un peu simplifié, non ?
Il est encore très négatif chez La Fontaine. C'est une des vedettes du bestiaire de La Fontaine. Je crois que c'est le 5e ou 6e animal par ordre de fréquence, après le renard, le lion, l'ours, le chien, le corbeau, etc. Et cet âne a tous les défauts qu'on a évoqués jusqu'à présent. Plus la vanité, il y a une fable célèbre où, mais elle est déjà chez Ésope et chez Phèdre, un âne porte des reliques et voit beaucoup de gens s'incliner sur son passage, croit que c'est devant sa personne, âne, que les gens se prosternent, alors qu'il se prosterne devant les reliques qu'il est en train de transporter.
Alors, il est temps que nous en venions au XIXe siècle et au rôle très positif qu'a pu avoir le romantisme, notamment. Du point de vue qui nous occupe, c'est-à-dire ce matin, l'image de l'homme, que l'homme a s'est fait, que les humains se sont faites de l'âne dans la longue durée, d'âge en âge.
Oui, le romantisme, comme souvent, prend en affection, en pitié, en valorisation les créatures qui ont été méprisées, oubliées, critiquées. L'âne en fait partie, donc dans la lignée de Buffon et puis de la sensibilité romantique qui s'est développée, il y a plusieurs auteurs qui tiennent sur l'âne un discours tout à fait nouveau. D'abord de l'apitoiement, pourrait-on dire. On le plaint d'avoir un sort si misérable et on souligne qu'il mérite mieux. Dans un premier temps, on ne propose pas de solution, on ne fait que décrire. Et puis dans un deuxième romantisme, parce qu'il y a plusieurs phases dans le mouvement romantique et dans la sensibilité romantique, l'âne retrouve une place dans la vie quotidienne et dans ses rapports avec l'être humain. Ça va être dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Victor Hugo lui rend de grands services depuis Notre-Dame de Paris jusqu'à ce grand poème tardif qu'il publie avant sa mort et qui
s'appelle L'âne, tout simplement, et qu'il a commencé à Guernesey dans les années 1860. Et il y a travaillé très longtemps avec la collaboration d'un personnage dont on ne parle pas assez, qui est au fond le fils adoptif de Victor Hugo, qui s'appelle Auguste Vacry. On peut en dire un mot, Vacry, c'était un des soupirants de Léopoldine. Mais Léopoldine lui a préféré son frère. Elle a préféré Charles à Auguste. Mais Auguste est quand même resté très fidèle à la famille Hugo, et après la mort...
L'exécuteur testamentaire, non ?
C'est l'exécuteur testamentaire. Après la mort de Léopoldine et de Charles, noyé à Villequier, il a suivi la famille Hugo à Guernesey. Il était très ami avec les fils Hugo, et c'était son principal collaborateur. C'est lui qui se chargeait des basses tâches, pourrait-on dire, administratives et autres. C'est son exécuteur testamentaire. Et c'est lui, semble-t-il, qui l'a incité à reprendre son poème de l'âne que Hugo avait abandonné au retour de Guernesey. Et finalement, il le publie en 1880. Et alors, c'était destiné à la légende des siècles au départ. Donc c'est un âne qui traverse les siècles, qui a rencontré Platon, qui a rencontré le Christ, qui débat avec Kant des problèmes du monde et de la société. Et c'est un âne assez pessimiste, comme Hugo vers la fin de sa vie, et qui se met à critiquer le positivisme et même parfois la science. Il va jusqu'à dire trop de livres, trop de science. Et ça, c'est la sensibilité de Hugo, dernière période, en quelque sorte.
Le XXe siècle, on peut le dire, on est obligé de courir la poste ce matin, d'aller vite, mais on peut l'ouvrir avec un canular. L'histoire des canulars, c'est toujours passionnant. Je veux dire, coucher de soleil sur l'Adriatique, de Boronelli.
Oui, il faut s'y attarder, j'espère qu'on a le temps. Parce que
non,
c'est...
vous avez 2 minutes.
Alors, en 2 minutes, c'est une affaire inouïe. En 1910, au Salon d'automne, on voit un tableau abstrait qui enthousiaste la critique. C'est un tableau qui a été peint par la queue d'un âne. C'est un canular qui a été fait au Lapin Agile par de jeunes poètes, romanciers, artistes, Roland Dorgelès et son équipe, attachés un pinceau à la queue d'un âne pour se moquer de la mode trop grandissante de l'art abstrait. L'âne, en faisant des mouvements avec sa queue, a peint un tableau qu'on a appelé « Coucher de soleil sur l'Adriatique » et on a attribué, à, non pas à Ali Boron, mais à l'anagramme d'Ali Boron, Boronali. 1910,
enthousiaste de... Ça a coûté d'ailleurs à Dorgelès le prix Goncourt, puisque c'est...
Voilà, donc il faut continuer l'histoire.
Oui, je ne veux pas précéder votre propos.
Le canular a été dénoncé, ça a fait un mini-scandale, la guerre passe, Dorgelès fait une très belle guerre, écrit un roman « Les Croix de Feu ». En 1919, le jury du Goncourt donne le prix aux Croix de Feu de Dorgelès, dans un premier temps. Et puis quelqu'un fait remarquer quand même, c'est lui qui s'est moqué de nos amis critiques d'art en 1910. Est-ce qu'on peut lui donner le prix Goncourt? Ah non. Alors on le donne au livre qui a eu les voix en second, en quelque sorte, À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Et donc la seule fois où le prix Goncourt a couronné un chef-d'œuvre, c'est vraiment la seule fois, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'est à cause de la queue d'un âne. Et l'histoire me plaît beaucoup.
Nous tenons à garder de bonnes relations avec l'Académie Goncourt, donc je vous laisse la responsabilité de propos que vous venez de tenir. Et je rappelle que dans votre ouvrage, l'âne, qui est enrichi de toutes sortes d'images absolument magnifiques que vous avez choisies vous-même, on trouve reproduit le soleil s'endormit sur l'Adriatique. Et franchement, c'est un beau tableau.
Il est dans une collection privée.
Alors nous sommes obligés d'approcher, de sortir notre train d'atterrissage, d'approcher de la fin. On peut dire qu'au XXe siècle, l'âne est devenu plus proche de la sensibilité des enfants, notamment. On passera sur les mémoires d'un âne de la comtesse de Ségur, ou sur Pinocchio aussi, qui
est changé en âne parce qu'il est atteint de la fièvre asine, celle qui touche tous les enfants qui... ne veulent pas travailler, se comportent mal, grossièrement, etc. Donc avec un de ses camarades, ils sont changés en âne. Oh, c'est une merveille, les histoires de Pinocchio dans la version primitive de Collodi. C'est dans la lignée de l'âne d'or et des métamorphoses d'Ovide.
Au cinéma aussi, le fameux film de Robert Bresson, Au hasard Balthazar.
Alors, il est dans la tradition de l'âne misérable, cet âne... qui connaît un peu de bonheur au début quand il est le compagnon d'une jeune fille jouée par la petite fille de Mauriac, Anne Wajnarowski. Ensuite, il est vendu, déplacé, il accompagne différents personnages, de plus en plus misérable à chaque fois, maltraité, et il finit au milieu d'un troupeau de moutons, tout aussi misérable que lui au cœur des Pyrénées. L'histoire est tragique.
Alors je voudrais aussi évoquer, peut-être l'actualité m'y pousse-t-elle, le fait que l'âne, depuis le 19e siècle, est l'animal symbolique du Parti démocrate aux États-Unis d'Amérique.
Oui, et pour des raisons que mal éclaircies.
Jackson, quand même, vous nous dites.
Oui, en 1828, il y a eu une élection et le candidat démocrate a été traité d'âne par ses adversaires et il a retourné l'injure et il a fait de cet animal injurieux un emblème.
Jackass, oui,
c'est ça. Et c'est un cas fréquent où l'emblème peut être retourné par celui qui le subit. On n'en sait pas beaucoup plus. De même, l'éléphant républicain reste d'origine relativement mystérieuse. Et je me faisais la réflexion que, au fond, pour qu'un emblème garde une force symbolique plus grande, il vaut mieux ne pas trop savoir qui a choisi, pour dire quoi, dans quel contexte, à quelle époque. Si on sait tout des origines d'un emblème, d'un drapeau, ça perd de la force symbolique.
Eh bien, ce sera un dernier propos plein de sagesse et qu'approuvera assurément le public de Blois qui est devant nous, cher Michel Pastoureau. Je rappelle quel est le titre de votre livre. Ça surprendra personne. L'âne. Une histoire culturelle qui vient de paraître aux éditions du Seuil, après plusieurs autres consacrées au loup, au taureau, au corbeau, à la baleine, etc. Et puis je veux également jeter un trait de lumière sur le livre que vous publiez ces jours-ci avec Georges Vigarello, qui est un autre invité fréquent ici, que nous aimons beaucoup. Sport, une histoire des images, une histoire en images de 1860 à nos jours, aux éditions du Seuil également. Quoi s'agit-il ?
Oui, c'est un livre qui est paru hier, je crois, enfin qui sera en librairie lundi, en tout cas. Nous avons voulu, Georges et moi, unir nos savoirs, lui du côté de mouvement, geste, attitude, le corps, et puis moi, couleur, palmarès, résultats sportifs. Je suis pas très connu comme un spécialiste du sport, mais comme un historien des couleurs et des animaux. Mais en fait, ce que je connais le mieux, c'est le sport, mais jusqu'à présent, je n'en parlais jamais. Et puis là, mon éditeur m'a poussé à collaborer avec Georges et on a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble.
Et bien voilà, notre conversation s'achève. Vous allez entendre un morceau d'une chanson qui s'appelle « Sur la route blanche » de Reda Kerr en 1939. Vous n'aviez pas encore eu de chanson ce matin, qui a été enregistrée en 1960. La voici.
Sur la route blanche, un petit âne trottinait. C'était un dimanche, tu nous emmenais promener. Parfois tu me prêtais le fouet, joyeux je le faisais claquer. Le petit âne s'en moquait, ça ne le faisait pas presser. Et la route blanche sous ses sabots se déroulait. C'était un dimanche, dans les champs les fleurs embaumaient. Et qu'un cas, toujours au petit trot, pour moi nous arrivions toujours trop tôt. Sur la route blanche, un petit âne trottinait.
Vous venez d'entendre, devant le public de Blois, et un public que j'espère un peu plus large, vous venez d'entendre Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney, une émission préparée comme chaque semaine par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec, puisque nous sommes à Blois, une équipe importante, technique pour nous soutenir, et je salue Benjamin Troncin, Franck Malabry, avec tous ceux qui les entourent. Je remercie Keating Wang à la discothèque et Clary Monac pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel.
Sous ses sabots se déroulaient, c'était un dimanche, dans les champs les fleurs embaumaient. Et qu'un cas, toujours au petit trot, pour moi nous arrivions toujours trop tôt.